Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions une lecture. Je vais vous raconter une histoire, comme à chaque fois d'ailleurs. Comme la Bible est pleine d'histoires. Alors, je vous invite à faire cette première lecture dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 17. Et au verset 31. Simplement, cette parole prophétique, elle nous est laissée par Jésus dans un contexte tout à fait particulier. Il dit ceci, donc Luc chapitre 17 verset 31, « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Voilà. Assez original ce que nous laisse entendre Jésus à travers cette parole, mais c'est néanmoins un avertissement à la vigilance et à prendre tout simplement en compte certaines choses qui sont importantes dans notre vie. Et il y a, c'est vrai, nous le savons, des choses qui sont essentielles, des choses qui demeurent, des choses primordiales, qui doivent avoir la prééminence sur tout le reste, et puis des choses secondaires. Et c'est un peu ce que Jésus veut nous laisser comprendre quand il dit « l'un sera pris, l'autre laissé ». Il y a une signification, puisque vous avez remarqué avec moi, c'est ponctué trois fois. Il est question d'abord de ceux qui dorment ensemble, c'est-à-dire je suppose que c'est un couple, et puis il est question également de deux femmes en travail, dans les travaux domestiques, et puis dans également de deux hommes qui sont dans leur activité, et il y en a bien sûr un qui sera pris, l'autre laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez remarqué avec moi, il est question également où Jésus dira, mais souvenez-vous de la femme de Lot. Vous connaissez Madame Lot? Oui. Illustre inconnu, Mais pour les biblistes, pour ceux qui lisent la Bible, elle a quand même un sens, parce que si Jésus la met au cœur de cet avertissement, c'est qu'il y a quelque chose probablement à retenir dans cette affaire. Et nous voyons que, je voudrais lire tout de suite avant d'aller dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, où il nous est parlé d'un couple. Il est parlé de Lot et il est parlé de sa femme. Et c'est vraiment l'illustration de l'un qui est pris et l'autre qui est laissé. Alors, il y a un sens naturellement à donner à tout cela. Mais je voudrais introduire cette histoire par finalement l'aventure de ce couple, de cet homme et de cette femme, où la preuve nous est donnée finalement que tout homme, et je voudrais quand même le souligner, tout homme peut faire de grossières erreurs dans ses choix, parce qu'il nous appartient finalement de choisir et de choisir le mieux, mais parfois nous pensons en choisissant le mieux, nous choisissons le pire. Et c'est bien l'histoire de Lot, et nous voyons que Jésus nous laisse entendre qu'il est toujours possible de repartir vers une nouvelle vie. C'est celui qui est pris, parce qu'il y a toujours un redémarrage dans la vie. Vous savez, on chante un petit cantique quelquefois, où il est toujours question de pouvoir repartir à zéro. Et c'est vrai, si quelquefois les hommes ne nous donnent pas une seconde chance, Dieu nous offre sa grâce pour repartir dans la mesure où on ne s'obstine pas à ne pas vouloir reconnaître nos fautes, nos erreurs, parce que finalement nous finissons par tout perdre. Alors, on va parler justement, on va illustrer cette histoire de Lot. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, on va aller un petit peu plus loin maintenant, et on va voir la question qui, nous intéresse. Et il est question précisément de l'un qui est pris, l'autre laissé. Alors, je ne vais pas lire le texte, je voudrais simplement donner un commentaire direct et nous reviendrons sur quelques versets concernant Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Alors Abraham, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler finalement d'Abraham. Et Abraham s'est caractérisé par un caractère de foi véritable. Un homme qui croit en Dieu, même s'il n'a pas de preuves. Et puis Lot, il est pourtant issu de la même famille, c'est un homme qui a besoin de sentir, de voir, de toucher. C'est pas franchement la foi, c'est plutôt une croyance. Une croyance dans ce qui peut l'avantager, ce qui peut servir ses intérêts. Et quelque part, ça a été véritablement son drame. Et puis voilà que il va y avoir une séparation entre Lot et Abraham. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire puisque c'est décrit dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, mais on va passer. Et il nous est dit que Lot, à un moment donné, après avoir fait un mauvais choix, est arrivé dans une ville, enfin dans deux villes, dans une région, qui se nomme Sodome et Gomorre. Là aussi, je pense que tout le monde a entendu parler probablement de cette histoire. Et Sodome et Gomorre, c'est tout simplement l'image du monde, un monde sans foi ni loi. Peut-être à la ressemblance d'une autre, où il y a des lois, ça c'est sûr. Mais où on s'aperçoit que dans notre monde, il y a de plus en plus une désaffection de la foi, où les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi, sauf en Dieu. Et voilà que Lot va s'établir tout simplement à Sodome. C'est le résultat finalement de ce qu'il pensait être agréable, où il pourrait faire des affaires, où il pourrait gagner d'argent, beaucoup d'argent. Mais finalement, c'est pas ça ce qui s'est passé. Comme quoi, nous pouvons passer du rêve, finalement, au cauchemar. On va en dire deux mots tout à l'heure. Parce que, à vrai dire, certains choix de vie se révèlent catastrophiques, pas forcément tout de suite, mais longtemps après, c'est ce qui s'est passé pour lui. Et il lui a fallu, toute la grâce de Dieu pour s'en sortir. Parce qu'il était pris dans une spirale, dans un mouvement, un marécage, un labyrinthe. Vous savez ce que c'est qu'un labyrinthe? On peut chercher très longtemps la porte de sortie et puis finalement on ne le trouve pas. Et vous rappelez tout simplement les raisons du mauvais choix de Lot. Parce que précisément dans la Bible, il est écrit cette petite phrase en ce qui concerne Sodome et Gomorre. Il nous est dit que les gens de Sodome étaient particulièrement méchants. Et ils étaient outrageux, de grands pécheurs devant l'Éternel. Et il y a eu naturellement devant ce monde de Sodome et Gomorre, en raison de leur façon de vivre, un jugement, une condamnation. Et cela, ça nous vient justement à travers le chapitre 19 où nous avons ouvert notre lecture, notre histoire. Et il nous est dit que Dieu a prononcé un réquisitoire sur Sodome et Gomorre, et il a dit « Nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Alors quand il y a des gens méchants et quand il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a ceux qui sont manipulateurs, et puis il y a ceux qui sont manipulés. Et je pense que le cri n'était pas forcément de ceux qui tiraient les ficelles, mais de ceux qui étaient victimes, à travers toutes sortes de choses qui pourraient ressembler à ce qui défrait la chronique aujourd'hui, à travers le sang versé, à travers des injustices, à travers des mœurs complètement décadentes, toutes sortes de choses. Alors en cela, il y a toujours, c'est vrai, ceux qui en profitent et ceux qui sont tout simplement les victimes. Alors c'est pour ça qu'il nous est dit que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. Qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu patiente, Dieu attend, mais il arrive un moment ou un autre que devant l'injustice, devant la méchanceté et l'immoralité, il y a tout simplement, comme dans le phénomène des moissons, ce qu'on sème, on le récolte. Alors n'allons pas accuser Dieu de ce qui nous arrive ou de ce qui peut arriver, parce que finalement, quelquefois, si nous sommes honnêtes, on s'aperçoit que c'est pas toujours la société, c'est pas toujours les autres, mais comme dans le cas de Lot, c'était lui qui s'était mis dans une situation comme ça. S'il avait eu un petit peu l'intelligence minimale de demander à Dieu s'il pouvait finalement, eh bien, aller faire un petit tour, un petit séjour à Sodome et Gomorre, Dieu lui aurait dit « Ne mets pas les pieds là, parce que tu vas voir, tu vas y perdre tout. Tu vas tout perdre. » Alors la patience de Dieu est grande. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Mais qu'est-ce que fait Dieu ?» Parce que si Dieu existait, eh bien, il interviendrait, il sanctionnerait. Regardez ce qui se passe actuellement dans ces malheureux pays, je pense à la Syrie. On se dit « Mais c'est terrible !» Un homme qui détruit son peuple, et puis c'est pas le premier. Et là, ce sera certainement pas le dernier. Alors quelquefois, on se dit « Mais si j'étais à la place de Dieu, moi je ferais ceci et cela. » Ça va venir. Parce que ça vient toujours. Ça prend son temps, mais ça vient. Malheureusement, il y a des victimes. Et on s'aperçoit que, néanmoins, lorsque la corruption est à son comble, Dieu intervient pour y mettre un terme. Et c'est ce qu'on appelle la justice divine. Voilà. Ça. Et heureusement qu'il y a eu quand même des choses comme ça, même pendant la dernière guerre. Parce que autrement, il semblerait que finalement le monde entier allait basculer dans l'horreur. Et il y avait des gens qui priaient, des gens qui avaient le sens de la liberté et du respect de l'humanité. Et là, ça s'est retourné à un moment donné, bien que certainement ceux qui ont vécu cette époque pouvaient penser qu'au début de la guerre, eh bien, tout allait se renverser dans un sens terrible. On a des situations comme ça dans la Bible, l'histoire de Noé par exemple. On sait ce qui est dit avant le déluge, et on sait ce qui s'est passé après. On sait très bien ce qui s'est passé pour l'histoire, dans toute l'histoire d'Israël, plusieurs fois répétée. À chaque fois qu'Israël finalement abandonnait Dieu, il y avait tout de suite un effondrement. Enfin, il y avait un effondrement, ce qui les a amenés à la déportation à Babylone, ce qui les a amenés, on peut dire, à la diaspora. Après la crucifixion de Jésus, le monde, eh bien là, a été témoin de toutes les atrocités qui ont été perpétrées dans le monde entier contre les Juifs, jusque finalement, eh bien, ce qui s'est passé, l'exil, et puis toutes sortes de choses. Après la patience et la grâce qui est méprisée, eh bien, le jugement. Et nous voyons que il y a quelque chose à dire, parce que, vous savez, si l'on peut quand même mettre les choses et les caler dans l'histoire, on s'aperçoit que si nous nous posons la question « Pourquoi Jésus est venu ?», eh bien on s'apercevra qu'il est venu pour sauver les hommes. Pour que dans ce message que l'on appelle l'Évangile, eh bien les hommes croient à cette bonne nouvelle, reçoivent par la foi la grâce de Dieu pour échapper au jugement. Mais nous savons que Jésus est venu une première fois, et Jésus revient. C'est pour ça que quand nous avons lu le texte tout à l'heure, ça faisait partie de l'annonce de son retour. Et nous nous apercevons qu'il revient, mais là il ne viendra plus pour sauver les hommes. Pour ceux qui seront sauvés, pour ceux qui auront cru, il nous est donné finalement une formidable espérance, mais pour ceux qui auront mis le comble, finalement, eh bien, à leur incrédulité, à leur méchanceté, il nous est dit que ce sera le jugement dernier à ce moment-là. J'espère que je ne vous fais pas peur, parce que ça introduit la suite, vous allez voir. Le récit que nous entreprenons donne la preuve que Dieu fait et fera tout pour arracher de la condamnation les hommes qui se laissent fléchir, qui ne se laissent pas fléchir par l'appel de la grâce et les avertissements de Dieu. Et Dieu met tout en œuvre, et même l'envoi des anges, comme nous lisons, par exemple, dans le livre des Hébreux, puisqu'il nous est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et puis dans le livre des Hébreux, il nous est dit que Dieu envoie des anges, alors ça c'est le monde invisible, hein, naturellement, sans que nous nous apercevions, pour amener les hommes au salut et être délivrés. Alors, une chose qui est certaine, l'un sera pris, sera sauvé, l'autre sera perdu, sera laissé. Et je voudrais quand même affirmer une chose, c'est que Dieu ne peut rien faire pour ceux qui restent indifférents, pour ceux qui restent incrédules et endurcis. Et ça, c'était les habitants de Sodome. Qu'est-ce qui allait se passer? Les résultats, c'est que finalement, c'est l'homme lui-même qui se perd ou qui sauve son âme uniquement en raison de sa foi ou de son incrédulité. je crois, je suis sauvé, je ne crois pas. Et c'est l'autre alternative, hein. Il n'y a pas d'autre signification, il n'y a pas d'autre sens à donner. Et nous voyons que dans le chapitre 19, où il est question de l'histoire de Lot, de sa femme, de sa famille, alors que cet homme est un croyant, mais qu'il est dans un danger imminent, parce qu'il va y avoir un jugement qui va venir finalement sur ces villes de Sodome et Gomorre, nous voyons qu'il y a deux anges qui vont être chargés de sauver Lot et de détruire les réfractaires. Il va y avoir une œuvre de salut d'un côté et une œuvre de jugement de l'autre. Et ça, c'est assez dramatique. Alors Lot, quand il va voir ces étrangers arriver, il va pas les reconnaître comme des anges, parce qu'ils se présentent comme des hommes. Et ça, c'est aussi assez étrange. Alors il va être le seul dans toute la population de Sodome et Gomorre, finalement, eh bien, à accueillir ces étrangers dans sa maison, et il va leur offrir l'hospitalité. Nous allons examiner brièvement le caractère moral des gens de Sodome. Dans le texte, à partir du verset 4, il nous est dit ceci, on peut lire le début. Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et ils entrèrent dans sa maison, il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Donc c'est l'accueil hospitalisé. Et ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Voilà, il nous est dit que dans cette population, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute cette ville était frappée de la corruption. Et cette corruption était à son paroxysme. Il n'y avait plus d'innocence chez les enfants et il n'y avait aucune sagesse chez les vieillards. On peut voir les deux extrêmes en quelque sorte. En d'autres termes, c'était une folie collective. Ils ne pensaient pas à autre chose que de faire le mal, que de faire des choses qui étaient choquantes, plus que choquantes, un véritable outrage à la morale et puis au reste. Et nous voyons que ces gens sont venus frapper à la porte de Lot, sachant qu'il y avait des étrangers qui étaient finalement hébergés chez lui, et ils vont dire, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors, connaître, c'était pas pour une conversation aimable de la soirée, hein. C'était tout simplement, les violenter, leur faire subir toutes sortes de sévices, des abus, dans l'intention de faire le mal à ces gens qui étaient venus se réfugier dans la maison de Lot, et un mal de toute nature. On peut comprendre ce que ça peut vouloir dire. Lot va réagir à ce moment-là. Il va dire, mais mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Il les connaît. Il sait que de toute façon, cette propension à la méchanceté est la caractéristique de cette société d'alors. Et il connaissait bien les sodomites, et leur comportement criminel et dépravé, parce qu'ils savaient que c'était pas la première fois que les choses se passaient de cette manière. Il devait se passer des choses aussi étranges que odieuses à Sodome. Quand nous lisons le rapport qui nous est fait dans le livre de Jude à la fin de la Bible, il nous est parlé d'infamie, il nous est parlé de vice contre nature, de perversion, de violence, de crime. Comment dire ? Est-ce que le monde aurait changé depuis ces temps ? On s'aperçoit que ce qui fait l'actualité, ici ou là, dans nos pays occidentaux dits civilisés, lorsque l'on voit des jeunes filles qui sont violées, assassinées, ou des enfants qui sont brûlés, ou toutes sortes de choses semblables, on se dit, mais dans quelle société nous vivons ? Et il semblerait que même les pouvoirs publics sont complètement incapables d'endiguer cette marée. Alors je ne suis pas en train de faire du catastrophisme, mais je suis en train tout simplement de souligner une chose que finalement la société ne se refuse à voir. Parce que on vit beaucoup plus avec des mauvaises nouvelles qu'avec des bonnes. Si vous prenez les informations d'une manière ou d'une autre, vous verrez que le soleil ne brille pas tous les jours. Et on s'aperçoit que quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de s'enrichir, quand il s'agit de dominer l'exploitation de l'homme par l'homme, il n'y a pas de frein, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Autre que finalement, eh bien, d'aller jusqu'au bout du désir. Et c'est quand même une ressemblance avec notre société, notre monde d'aujourd'hui. Pour revenir à Lot, dans son choix dont nous avons parlé tout à l'heure de s'établir à Sodome, il s'est trouvé absorbé par l'atmosphère corrompue finalement de son environnement, parce que c'était un état d'esprit. Vous savez, nous sommes dans une société où les gens maintenant ne font plus le distinguo entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre ce qui est pur et impur, entre ce qui est lumière et ténèbres, en mélangeant tout, en y mettant Dieu, en y mettant toutes sortes de raisons, des croyances, des superstitions, de l'occultisme, de la magie, enfin, on pourrait dire que c'est véritablement le grand mélange. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et à Sodome et Gomorre, le mal était devenu la règle. Et les gens disaient, même quand il y avait des choses terribles qui pouvaient choquer les consciences, eh bien on disait, bah finalement c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en arrive finalement à avoir comme règle de pensée, d'analyse et de raisonnement que si tout le monde le fait, eh bien c'est forcément bien puisque c'est la majorité. C'est terrible, hein? Vous vous rendez compte le renversement de la tendance? Parce que il y a une majorité. Et je crois que dans certains domaines, je ne suis pas là pour mais je voudrais quand même dire que même les lois, d'une façon ou d'une autre, quelquefois ne sont pas faites forcément qui vont dans le sens du bien, dans le sens de la protection. Et on s'aperçoit que, bien, puisque les choses sont ainsi, on va dire, c'est bien. Vous savez que la Bible nous dit, sous la plume de l'apôtre Paul, que les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. À partir du moment où le mal devient majoritaire, eh bien, on ne fait plus trop attention à tout cela. Je voudrais simplement ajouter ceci, c'est qu'il y a deux attitudes face au mal. Et c'est vrai que c'est un choix difficile. Parce que il y a un phénomène dans notre monde, c'est le conformisme. Si je ne suis pas comme tout le monde, je suis un anormal. Il faut être courageux pour dire, finalement, eh bien, ce que les autres finalement prétendent, et dire le contraire. Alors il y a des gens qui sont courageux en politique, ils se gênent pas. Il y a quelquefois, même dans le domaine de la religion, des gens qui disent « moi je ne suis pas d'accord », ils ont peut-être pas forcément tort. Parce qu'il y a des abus, il y a toutes sortes de choses, et dans le domaine de la justice, et toutes sortes de choses, il y a des gens qui se battent pour ça. Souvent ce sont des gens qui sont très mal vus. Et Lot faisait certainement partie des gens qui étaient dans une certaine... il était tourmenté parce qu'il était dans une certaine complaisance dans un sens parce qu'il s'était enrichi. Puis d'un autre côté, ça a tourmenté son âme parce que, bon, voilà, il était vraiment... il ne savait plus quel parti prendre. Alors, le premier choix, c'est de céder aux pressions et faire comme tout le monde en disant, peu importe, j'étrangle ma conscience et à ce moment-là, je la fais taire et puis je fais comme tout le monde. Ou alors, il y a résister, mais résister va nous faire souffrir. Parce que c'est pas toujours facile d'aller à contre-courant de ce que tout le monde pense. Et c'est bien pour cela que dans la Bible, à la fin de la Bible, il nous est parlé de Lot également, Lot que nous retrouvons au début de la Bible et à la fin de la Bible, son histoire nous est rapportée, il nous est dit « Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et il entendait de leurs œuvres criminelles. » C'est bien marqué, criminelles. Ça devenait pour lui insupportable. Ça devenait irrespirable. Ça devenait impossible. Parce que le mal était au vu et au su de tous. Et la grande majorité applaudissait en disant « mais c'est comme ça ». Vous savez, c'est terrible. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité des situations comme ça, tout le monde n'était peut-être pas d'accord. Mais tous ceux qui n'étaient pas d'accord, ça a été payé au prix du sang. Hein. Ne serait-ce que, tout à l'heure je faisais allusion à l'occupation allemande dans la dernière guerre. Je peux vous dire qu'à un moment donné, personne n'osait dire quoi que ce soit. Hein. Après, il y a la résistance. Je suis pas en train de faire une conférence politique hein, ce soir, hein, ou historique. Mais c'est cela. Et l'autre se trouvait dans cette situation. Parce que le mal était sous les projecteurs. Et je peux vous dire que quand le mal est sous les projecteurs, comme il l'est par les médias aujourd'hui, quelle éducation donnons-nous à nos enfants et à ceux qui vont venir après nous? Ils vont s'y habituer. Hein. Vous savez, on finit par s'habituer à toutes les odeurs. On finit à s'habituer à tous les spectacles. On finit à s'habituer à tous les comportements et toutes les attitudes, parce que c'est comme ça, tout simplement. Alors, on ne peut aimer le bien et la justice et prendre plaisir au mal, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Et c'est ça justement ce que Jésus est venu dire aux hommes. Nous proposer une voie qui va peut-être aller à l'encontre de ce qui est commun et répandu pour marcher peut-être en homme courageux et de dire « moi je prends la position maintenant ». Une autre position. Et croyez bien que ce n'est pas une affaire de religion. Parce que la religion ne nous a jamais sauvés. La religion ne sauve pas les hommes. C'est une illusion. C'est une autre position. C'est une position morale de cœur, dans notre conscience, avec le courage que Dieu est capable de nous donner. Alors, Lot aussi pourtant, eh bien là, avait probablement dans son cœur un désir de pureté. Mais comment faire dans une atmosphère où tout était corrompu? Alors il va tenter de raisonner ses concitoyens, c'est ce que le texte nous dit, mais sans succès. Nous l'avons dit dans ce que j'ai lu tout à l'heure, mais au verset 9, il nous est dit que quand il a commencé à leur dire, mais surtout, hein, ne leur faites pas de mal à ces gens qui sont venus chez moi, ne leur faites pas de mal. Alors ils vont lui dire, retire-toi, parce que tu es venu chez nous comme un étranger et tu veux faire le juge. Vous le retrouvez, hein, si vous faites la lecture, vous le retrouvez. Eh bien, puisque tu veux nous faire la morale, eh bien, nous allons te faire pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Donc, c'était quand même pour faire quelque chose qui n'était certainement pas hein, très agréable. Voilà le problème qui se passe. Il a voulu dire quelque chose, et à ce moment-là, eh bien, ça s'est retourné contre lui. On peut supposer que Lot adressait souvent quelques reproches, eh bien, aux habitants de Sodome, qui étaient fatigués de l'entendre, faire appel à leur conscience. Alors, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'un chrétien que nous ne sommes pas là pour faire la morale aux gens. Non, nous n'avons pas un évangile de moraliste. Et je crois que notre vie parlera plus que nos paroles. Mais Lot, dans cette circonstance, à un moment ou à un autre, eh bien, a voulu dire, mais attendez, quand vous tuez, quand vous piétinez l'innocent, quand vous moquez de la justice, vous croyez que ça va durer? Alors il leur disait, il leur faisait passer naturellement, eh bien, ce message. Alors ils n'en veulent pas, les gens de Sodome. Ils ne veulent pas de cette grâce. Ils ne veulent pas de, finalement, ce qu'il leur est proposé. Mais il y a une chose qui va apparaître maintenant dans notre récit, c'est que c'est la grâce de Dieu qui va se manifester à l'égard de Lot et de sa famille. Et là, nous allons reprendre, et le verset 12 nous dit ceci, jusqu'au verset 14. « Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici ?» Enfin, les hommes, ce sont les anges. Hein. « Qui as-tu encore ici, gendre, fils ou fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Alors, s'il y a une loi de solidarité dans la condamnation et dans le jugement pour les incrédules, je voudrais dire qu'il y a une loi de solidarité dans la justice et dans la foi. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui acceptent et qui croient à l'avertissement, ils vont être pris, c'est-à-dire qu'ils vont être sauvés. Maintenant, lorsque, envers et contre tout, nous préférons encore le mal au bien, et que nous nous entêtons et que nous disons, eh bien, finalement, tout ça, c'est du blablabla des histoires, eh bien, ce sont ceux qui sont laissés. C'est-à-dire que ils vont répudier tout simplement le message qu'il leur est proposé de se convertir. Convertir, ça veut pas changer, ça veut pas dire changer de religion, mais ça veut dire changer d'état de cœur, de mentalité, et le laisser à Dieu, laisser le Dieu faire à l'intérieur de nous-mêmes, pour que nous puissions être transformés, changés. Dans la famille de Lot, il y a sa femme, il y a ses filles, il y a ses gendres, on l'a lu. Malheureusement, nous observons que, même pour ceux qui sont avertis, certains ne veulent pas se laisser persuader, même pour être sauvés. Soit qu'ils aiment le mal pour le mal, parce qu'il y a de la complaisance et du plaisir, soit qu'ils refusent de croire parce qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Et ça, c'est un petit peu l'histoire de notre monde, où le message évangélique ou le message chrétien fait sourire les gens, parce que ça dérange. Ils se disent, mais ce sont des doux rêveurs, les chrétiens, hein. Il n'y aura jamais de jugement, il n'y aura jamais de fin du monde, il n'y aura jamais ceci et cela. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours se mettre toutes sortes de philosophies existentialistes. Il n'y a pas, après la mort, il n'y a plus rien. Non, mais pourtant, la Bible nous dit qu'il y a quand même un ciel et un enfer, qu'il y a quand même des réalités, du bien et du mal. Le bien sera récompensé et le mal sera condamné. Qu'il y a la vie et la mort, ce sont des choses tellement probante, et même devant ces choses qui parlent d'elles-mêmes, les gens se refusent de croire que c'est encore une réalité. La vie, c'est pas un rêve. La vie, c'est une réalité. Avec tout ce qu'il peut y avoir de terrible, tout ce qu'il peut y avoir de vrai et de faux, de vérité et de mensonge. Alors, il y a ceux qui se refusent finalement d'y croire, parce qu'ils se disent, eh bien, tout ça, c'est des histoires. Il nous est simplement, nous l'avons lu il y a un instant, aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Alors croyez bien que quand Dieu appelle un homme ou une femme, il ne plaisante pas. Non, c'est une réalité. C'est quelque chose de sérieux. Et les avertissements de Dieu, entre autres l'évangile, son appel, ne sont pas des plaisanteries. D'ailleurs, on le voit, on le constate, au dernier moment, lorsque quelqu'un quitte ce monde pour entrer dans l'autre dimension. J'ai toujours remarqué que les chrétiens véritables et authentiques, ceux qui ont vécu de cette parole de Jésus, l'évangile, ceux qui ont foi en Dieu dans sa grâce, et ça c'est à chaque fois, partent dans une paix et un repos, une sérénité qui ne se dément pas. J'ai accompagné beaucoup de gens dans leur dernier moment. Jeune et moins jeune. Et je peux vous dire qu'il y a toujours quelque chose qui marque la différence. Par contre, j'ai dû aussi assister des gens qui n'étaient sans espérance, sans espoir, qui ont toujours vécu comme mangeons et buvons, car demain nous mourrons, puisqu'il n'y a plus rien derrière. Toutes ces philosophies existentialistes, eh bien là, ça fait la différence. Parce que c'est au dernier moment que l'on voit maintenant, et que l'on voit les attitudes et les réactions. Le remords, le regret. Quelquefois, cette crainte et cette peur pathétique de devoir aller vers l'inconnu. Pour un chrétien, il n'y a pas d'inconnu. Nous savons où nous allons. Nous avons des certitudes et des assurances dans notre cœur. Mais pour les autres, c'est autre chose. Alors, ce sont des choses certaines et véritables, nous dit la Bible. Il nous est dit que dans 1 Timothée, donc toujours dans la Bible, Paul dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les hommes. » Autrement, qu'est-ce qu'il serait venu faire? C'était pas pour le folklore religieux, hein? Le petit Jésus à la crèche et puis tout le décorum. Non, parce que le point ultime de la venue de Jésus dans ce monde, c'était pour que finalement il donne sa vie à notre place et que nous puissions, eh bien, finalement croire qu'il a été notre substitution et qu'il est mort à notre place. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et nous, nous mourrons, mais nous avons cette espérance de la résurrection. Et ça, ça change tout. Ça change tout. C'est une assurance. Dieu a tout mis en œuvre pour que nous soyons sauvés. Et il faut le croire, parce que, je le répète encore une fois, c'est très sérieux. comme le livre des Hébreux nous le dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et à défaut de croire au salut qui nous est offert, il y a nécessairement la contrepartie, c'est-à-dire le jugement. Je prêche rarement sur le jugement, mais ce soir je le fais. Parce que je crois que, il faut le dire, c'est une nécessité. C'est une nécessité comme l'évidence de la vie. Je vous l'ai dit, il y a la vie et la mort, il y a le bien et le mal. Et je pense que trop souvent les gens sont pris par toutes sortes de choses. Par une courte vue, par un aveuglement, une fausse sécurité, l'insouciance. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, quand nous avons lu que l'un sera pris, l'autre laissé. Et celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la donnera volontairement pour Christ, dans la foi, eh bien il la retrouvera. Il ne perdra rien, au contraire. Ce sera le contraire qui se produira. Vous savez, je pense qu'il y a deux choses antinomiques dans le monde. Il y a la foi et il y a l'incrédulité. Nous sommes perdus à cause de notre incrédulité, par le refus de croire. Et l'incrédulité a le pouvoir d'endormir notre conscience, notre entendement. Parce que Jésus nous rappelle, le ciel et la terre, passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et quand Jésus nous prévient, c'est quand même à prendre en compte. Et nous voyons que Lot va être obligé, pour sauver sa vie, de se séparer d'une partie de sa famille et d'abandonner tous ses biens. Lui qui avait voulu gagner, lui qui avait voulu s'enrichir en descendant à Sodome, une ville qui était déjà condamnée à l'avance, et il va tout perdre. Tout perdre. Alors il va fuir le jugement. Il a raison. Je crois que c'est un peu l'attitude qui doit être la nôtre, de fuir quand il y a un danger. Et nous voyons que il va devoir tout laisser, c'est-à-dire que tout ce qu'il a gagné, il va le perdre. Il ne lui reste que sa vie seule. Là est bien toute la réalité de l'existence, et c'est là où il faut savoir où sont nos vraies valeurs. Quelles sont nos valeurs? Manger, boire, travailler, c'est normal. Gagner de l'argent, c'est normal. Mais si j'en fais finalement le but de la vie, de ma vie, alors que je me trompe lourdement parce que ce sont des moyens d'existence, ce ne sont pas des buts d'existence, alors à ce moment-là, ça devient grave. Parce que qu'est-ce que vaut les richesses? Qu'est-ce que vaut le pouvoir ou les possessions? Vous savez très bien que quand on est arrivé au monde, on n'était même pas habillé, hein. Hein? Et certains se sont construits des empires, ont des fortunes colossales, mais quand ils vont repartir, ils repartiront sans rien. Ça, c'est la réalité. Et on continue au verset 15. Il est dit ceci à un moment donné. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent hors de la ville. Je continue. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » On retrouve Lot en train de fuir. Il sait très bien que maintenant il n'y a pas d'autre alternative que de s'en aller, de quitter, de partir. Et il y a une ultime recommandation qui est faite aux fugitifs. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Dieu ne donne pas des avertissements pour rien. Parce qu'il y a des raisons. Quand Dieu parle, il faut vraiment en tenir compte. Mais pourquoi cette mise en garde? Premièrement, parce que quand Dieu veut sauver un homme, il désire qu'il parvienne au terme de son salut. C'est pas le tout de commencer, il faut arriver. Ça, c'est déjà une première chose. Et qu'il ne s'arrête pas en chemin après avoir commencé à marcher. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. C'est pas de commencer, c'est d'aller jusqu'au bout. Hélas, il y a des gens qui ont fait des belles expériences avec Dieu, qui ont rencontré Jésus-Christ dans leur vie, avec des transformations formidables et des expériences aussi formidables, et qui à un moment donné, ils ont tout laissé tomber. C'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas regarder en arrière et de ne pas regarder de droite et de gauche. C'est une persévérance de tous les instants. La deuxième raison de cet avertissement, c'est que le fait de regarder en arrière image notre attitude à l'égard de notre vie passée. et quelquefois notre vie passée, elle est tellement chargée, elle est tellement pleine, elle est tellement encombrée de toutes sortes de choses, et cela constitue un obstacle majeur à notre marche en avant vers Dieu. Eh oui, et excusez-moi, mais il y a beaucoup de gens qui traînent tellement de casseroles dans leur histoire. Et pourtant, Dieu se propose de véritablement, eh bien, nous libérer de tout ça. Il y a des gens qui ne sont jamais regardés en avant, qui n'ont aucune perspective pour l'avenir. Ils sont toujours en train de regarder derrière. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, ne regarde pas derrière toi. Si tu veux avancer, c'est normal. Vous avez bien remarqué comment font les athlètes aux Jeux Olympiques. Hein. Quand le sifflet, enfin, quand il y a le starter, il n'y en a aucun qui regarde derrière pour savoir ce qui se passe. C'est devant, c'est le but. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et Lot devait regarder devant lui. Et c'est pour nous dire que si vraiment nous avons fait une expérience, et si Dieu nous appelle à faire une expérience avec lui, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a la foi, si quelqu'un découvre la foi et si quelqu'un veut la foi en Dieu, eh bien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant tout devient nouveau. C'est pour ça qu'il y a une séparation. On ne naît pas chrétien parce qu'on nous a baptisés lorsque nous étions tout petits. On l'est devenu par une rencontre, en pleine connaissance de cause, parce que nous sommes des adultes qui ont fait le choix de suivre volontairement Dieu. Et ça, ça change tout. Alors les choses sont devenues nouvelles. Et Dieu demande que nous tirions un trait définitif sur notre vie passée à travers nos regrets, nos remords, nos nostalgies, nos erreurs et nos fautes, puisque c'est lui qui pardonne tout ça. Être chrétien, c'est pas avoir une vie médiocre, c'est pas avoir une vie rétrécie, c'est pas avoir la tête dans les épaules et de dire « Oh, qu'est-ce que c'est difficile !» Au contraire, c'est une vie de liberté et d'affranchissement. Et ça, ça change tout. Écoutez, c'est fini. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et Dieu nous propose un nouveau départ, un redémarrage, une marche en avant, une vie nouvelle, dans la foi, comme Lot, parce qu'il a quand même marché, lui. Mais il y a un problème. Parce que si Lot a compris l'avertissement capital de l'ange pour la réalisation de son salut, il n'en est pas de même de sa femme. C'est pour ça que Jésus nous dit dans la première lecture que nous avons faite, souvenez-vous de la femme de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26, il nous est dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Finir en salière, imaginez-vous. Alors bon, je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Elle a été pétrifiée. Et moi, je vous dis qu'il y a bien des gens qui sont pétrifiés dans la vie. Toc, tout s'arrête. Il n'y a plus rien du tout. Plus d'espoir, plus d'espérance. Ils sont cantonnés dans une médiocrité d'existence, plus de perspective. Et c'est terrible. Tout ça pour avoir regardé en arrière, c'est terrible. Vous savez, quand on regarde et quand on vit ça, on ne peut pas aller très loin avec Dieu. Ça ne va pas très loin. Parce qu'on ne peut pas marcher tout en regardant derrière soi. Et je pense que la femme de Lot avait fait fi de l'avertissement. Est-ce une révolte délibérée à la vue de tout ce qu'elle avait perdu et laissé derrière dans une forme de révolte en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais une belle maison, j'avais des enfants, j'avais de l'argent, j'avais la réputation dans cette ville. Nous avions réussi notre vie, nous avions fait une fortune et tout s'effondre dans un feu, parce que c'est le feu qui va descendre à ce moment-là. » D'ailleurs, si vous allez en Israël et que vous descendez sur les bords de la mer Morte, nous y sommes allés il y a un an, et il y a une région qui s'appelle Sodome. Mais vous verrez, il n'y a plus rien du tout. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait des millénaires. Tout est brûlé, à perte de vue. Jamais on n'a reconstruit une ville. Jamais la population, c'est sinon quelques bédouins avec c'est tout. Ce sont des réalités. Il y a eu un jugement sur cette ville. Et peut-être que c'était la révolte dans son cœur. Ou tout simplement le manque de foi, où elle s'était dit, devant le danger qui était dans son dos, parce qu'elle voyait tout brûler, alors à ce moment-là, elle s'est dit, j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est un raisonnement négatif, parce que si on a Dieu avec nous, mais qui sera contre nous? Mais Dieu va nous donner la force, parce qu'il est tout puissant, parce que si c'est lui qui nous appelle, il va nous donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Et il y a des gens qui disent, je n'y arriverai jamais, mais si on va y arriver, il suffit tout simplement de croire. Alors elle regarde, parce que son cœur est encore de l'autre côté, vous comprenez? C'est le cœur qui parle. Et ses yeux suivent le cœur. Elle se dit, ma belle maison, tous mes bijoux, toute ma fortune, mes amis, je ne les reverrai jamais. Ben, vous savez, quand il y a un tsunami ou quand il y a un tremblement de terre, je peux vous dire que les gens, ils restent pas là. Et ils ont raison. C'est la même chose. Quand on sait que il arrivera un moment ou un autre, vous savez, notre planète, elle commence à craquer de tous les côtés. Et croyez bien qu'on y met la main pour que ça explose d'une façon ou d'une autre. Alors la vraie raison est là, c'est au niveau de son cœur pour Madame Lotte. Elle regrette sa vie, la ville corrompue, ses plaisirs, la vanité du quotidien, son confort, la superficialité de ses relations. Mais est-ce vraiment la vie tout cela? Quand on sait que d'un instant on peut tout perdre. Et c'est bête. C'est bête. Des gens consacraient leur vie à des choses secondaires. Je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas leur importance, mais une importance secondaire. Alors il lui est impossible de rompre avec son passé, ses souvenirs, ses amis, je le dis encore. Que reste-t-il et que restera-t-il? Que va-t-il nous rester si vraiment le principal? Nous n'avons pas le principal. Vous savez, comme à son exemple, il est insensé d'être sur la voie du salut et de risquer de tout perdre à cause de notre attachement au passé ou à des valeurs secondaires. C'est pour ça qu'il est dit, je le répète, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires à l'intérieur, c'est ce que Jésus nous dit tout à l'heure, nous l'avons lu, dans sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Ça ne sert à rien tout ça. Vous savez, dans le tsunami qui a eu lieu et puis l'explosion de la centrale au Japon, je peux vous dire que les gens n'avaient plus rien du tout, comme en pareil cas d'ailleurs. Et interdiction de revenir chercher les choses, des affaires, parce que tout était pénétré par la radioactivité. À quoi ça nous sert tout ça? Il faut recommencer quelque chose, il faut recommencer une autre vie naturellement. Est-ce que notre vie va s'arrêter pétrifiée? Parce que nous perdons certaines choses, figées par des choses éphémères, passagères, alors que Dieu appelle à une autre dimension, une dimension durable, une dimension impérissable, une dimension éternelle. C'est ça le message de l'Évangile. Je voudrais simplement dire que la vie, elle est dans l'avenir, pas le passé. Même s'il a été heureux, pas toujours, il n'a pas toujours été heureux, mais la vie, c'est devant nous. C'est parce qu'on ne changera rien à ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est fini. Nos erreurs, nos choix, les bons, les mauvais, toutes sortes de choses, on n'y changera rien. La vie est dans l'avenir. Pour nous dire encore que la vie, elle n'est pas uniquement dans nos possessions, dans les choses matérielles. La véritable vie, et c'est ce que Jésus nous enseigne, elle est au niveau de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Parce que l'être est un être, l'homme est un être tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. À regarder notre monde d'aujourd'hui, on pensait qu'il n'a qu'un cœur, un corps. Mais il y a une chose qu'il a oubliée, c'est qu'il avait une âme vivante. Il y a un esprit également. Alors en conclusion, je finis. Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à nous porter résolument en avant avec Dieu et à répondre à son appel? C'est ça ce qui est important. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à vivre une vie nouvelle ou est-ce que nous allons rester accrochés à notre misérable capital terrestre? Jésus a une parole pour conclure, dans le sermon sur la montagne. Il dit ceci, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et vous savez, la valeur de la vie, ou d'un homme dans ses choix, c'est ce qui se fait au niveau de son cœur. Et Lot avait mal choisi au départ. Il a tout perdu, mais par contre il lui restait l'essentiel. C'est qu'il a cru qu'il pouvait être sauvé du désastre et de la catastrophe, et que Dieu lui avait dit et lui avait montré ce qu'il pouvait faire pour cela. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est tout simplement de faire foi à Dieu, de le croire sur parole. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu nous propose encore ce soir. Est-ce que nous croyons à un Dieu que nous ne voyons pas? Est-ce que nous croyons à un Dieu invisible, mais pourtant réel et présent, et qui parle à nos cœurs et nos consciences? Qu'est-ce que nous allons lui répondre? Qu'est-ce que nous allons faire avec cet appel? Est-ce que nous pouvons nous moquer? Est-ce que nous pouvons dire, mais tout ça, ce sont des histoires et du blabla? Vous savez, je crois que quand on est renvoyé à soi-même dans une réflexion personnelle, à ce moment-là, c'est là où, quelque part indépendamment de tout le reste, des autres autour de nous, C'est là où il faut répondre à la question, alors que Dieu nous aide. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et je vous dirai que le salut, la vie, eh bien c'est devant nous. Et je crois que ça vaut vraiment la peine de l'accepter. Alors on va prier simplement maintenant. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons tout simplement te demander que tu nous donnes, Seigneur, véritablement de comprendre. De comprendre non pas seulement avec notre esprit, notre intelligence, hein, nos facultés cérébrales, mais de comprendre surtout avec notre cœur. Nous savons, Père éternel, que tu es venu sauver les hommes, tu as tout fait. Et à travers l'histoire, cette vieille histoire de la Bible, l'histoire de Lot, l'histoire de sa femme, l'histoire de ce jugement, eh bien, nous montre encore une fois de plus une formidable illustration de l'évangile où tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors il y a ceux qui seront pris et puis ceux qui seront laissés. Ceux qui croiront et ceux qui ne croiront pas. Ceux qui, tout simplement, eh bien, prendront les choses au sérieux et ceux qui tourneront cela comme une plaisanterie. Seigneur, tu visites, Père éternel, chacun et chacune. Et tu bénis ta parole ce soir. Et nous voulons te demander, Seigneur, que par-delà les paroles de ce message, de cette prédication, il y ait une action puissante de ton Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Alors c'est vrai pour notre soirée, mais c'est vrai également pour tous ceux qui entendront ce message, le message de Jésus-Christ, le message de la grâce, le message de la foi. Eh bien, tu les bénis, tu leur fais du bien et tu leur donnes, Seigneur, de réaliser que sans Christ, eh bien, nous sommes perdus et que nous pouvons être sauvés simplement lorsque, eh bien, nous nous approchons de toi et que nous te donnons notre cœur et notre vie. Parce que si nous voulons garder, nous perdrons, et si nous voulons te donner, Seigneur, eh bien, nous conserverons. Ça, c'est un principe. Merci, Jésus. Amen.